Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqué. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes enchantés de recevoir un homme qui trace dans le paysage artistique français une ligne singulière portée par la liberté entre l'insurrection, la poésie et l'aventure. Bonjour F.J. Ossan.
Bonjour.
Vous naviguez depuis les années 1970 entre le cinéma, la littérature et la musique. Le cinéma d'abord, puisque vous avez réalisé 6 courts-métrages, dont La Dernière Énigme en 82, Zona Inquinata en 83 ou encore Silencio, qui a obtenu le prix Jean Vigo en 2007. Mais vous êtes également réalisateur de 5 longs-métrages, différents et précieux, étalés sur 30 ans, L'Affaire des Divisions Morituri en 84, Le Trésor des Îles Chiennes en 90, Docteur Chance en 97, Dharma Guns en 2010 et enfin Neuf Doigts, qui a obtenu le Léopard de la meilleure réalisation au Festival de Locarno en 2017. Des films en noir et blanc, parfois en couleur, qui convainquent tant Jean Epstein que le film noir, tant des lumières étourdissantes que des intrigues sombres, tant la science-fiction que les situationnistes, et tous en pellicule argentique, dont vous êtes l'un des plus ardents défenseurs. La littérature, ensuite, puisque vous avez écrit, selon notre décompte, 20 livres depuis que vous avez 20 ans, des romans comme Génération Néant, sorti en 93, des essais méditatifs entre le journal et le manifeste comme le sublime Mercure Insolent en 2013, des revues aussi que vous avez éditées, ou encore des recueils de poèmes comme Bureau vs Formule Mort en 2007, vous inscrivant dans la tradition littéraire du Cut-Up, ou Venezia Centrale en 2015, qui font de vous notre plus immense poète de la langue française, selon l'expression de la cinéphile et chercheuse Nicole Brenez, que nous avions reçue dans le 4e épisode de l'émission. Enfin, la musique, puisque vous avez fondé 2 groupes, DDP de la Destruction Pure à Toulouse, ainsi que rejoint au début des années 80 les MKB, Messageros Killer Boys, avec lesquels vous réaliserez 9 albums. Ces groupes sont fortement influencés par les mouvements punk qui ont émergé partout dans le monde à la fin des années 70, mais pas que, et MKB va s'enrichir d'une multiplicité d'influences, de la musique expérimentale à la noise en passant par la musique industrielle. À ce propos, les auditeurs peuvent découvrir des extraits de vos travaux, poèmes, films et musique, sur notre site negative.co. C'est donc un programme chargé qui nous attend pour dresser votre portrait, F.J. Ossan, à la frontière de ces différents arts, cinéma, musique et littérature. Nous allons parcourir votre univers, vos univers visuels, sonores, littéraires, musicaux et poétiques avec vous dans ce nouveau grand entretien de Négatif.
Tout d'abord, pour mieux cerner qui vous êtes, F.J. Ossan, quel serait le mot le plus approprié pour décrire ce que vous faites dans la vie ?
Je ne sais pas. Je lisais il y a peu de temps un acteur qui disait « professional irregular ». Irrégulier, professionnel.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes poète, punk, réalisateur, écrivain, chanteur et artiste ? Ou c'est trop de mots ?
Oui, si on veut. J'ai commencé par l'écriture très jeune, et puis ensuite la musique, et ensuite le cinéma. Voilà. Oui, je dis toujours... J'aime citer Joe Strummer qui disait « Punk un jour, punk toujours
». Donc vous avez été écrivain, chanteur, punk.
Oui, en fait, c'est quelque chose de, comme ça, d'irrégulier, d'alternatif, si on peut dire, dans la mesure où j'ai commencé par l'écriture. Et puis, il y a eu l'explosion punk, ce qu'on appelait oui, 76-17. À la même époque, j'ai créé la première revue, la revue que j'ai faite, qui s'appelait la revue C à Toulouse. Et donc ensuite, MKB qui a démarré en 80. Et en 81, j'ai commencé à faire des films, voilà, 80, 82. Donc, et ensuite, n'étant pas un régulier professionnel, donc j'ai eu des accidents de parcours, comme ça, ce qui fait que je suis plus ou moins toujours revenu à l'écriture ou à la musique.
On vous qualifie parfois de poète. Est-ce que pour vous, la poésie, ça transcende les arts ?
Disons que oui, c'est dans les grandes passions que j'ai eu, la poésie, que j'ai toujours, hein, en fait. Après, c'est vrai que... J'ai eu aussi une grande passion pour le cinéma, ou le rock and roll, le noise and roll. Mais en fait, je cherche sans doute le même niveau pénétrant dans chaque domaine, mais par des voies différentes, puisqu'en fait, c'est quand même très très différent comme pratique.
Et donc, vous naviguez en courant alternatif entre ces pratiques
Oui, je reviens un peu toujours au point zéro, quoi. C'est-à-dire que
qui serait
Oui, je disais en plaisantant que tous mes films étaient des premiers films ou des derniers films, voilà. C'est-à-dire que j'essaye de les... Je rattaque le cinéma à chaque fois avec la... Avec la rage d'en faire un premier film et de reprendre à zéro, finalement. Et puis, avec l'idée qu'il soit possible que ce soit le dernier. Parce qu'on est toujours prêt à être effacé, quoi, dans le cinéma.
On va commencer avec votre dernier film, Neuf Doigts, sorti en 2018. La nuit, dans une gare, Magloire prend la fuite, sans bagages et sans avenir. Comme il tombe sur un paquet d'argent, les ennuis s'enchaînent. Une bande est à ses trousses, dont il finit otage, puis complice. Suite à un braquage raté, ils embarquent tous à bord d'un étrange cargo. Rien ne se passe comme prévu et la folie gagne le bord. Les hommes semblent être les jouets d'une machination conduite par le mystérieux Neuf Doigts. Neuf Doigts, c'est aussi le titre de votre dernier film. Mais avant d'être un film, c'était un scénario que vous avez écrit de vos mains. Comment est née l'idée de Neuf Doigts ?
Oui, disons que, en fait, c'est pas très compliqué. C'est vrai que le film commence comme un film noir. Et donc, il est capturé par une bande et d'otage, il devient complice et de fil en aiguille. Et donc le film navigue un peu en trois mouvements, c'est-à-dire que ça commence vraiment comme un film noir, presque muet. Puis ensuite, il y a une espèce de dérive plutôt vers l'aventure maritime, puisqu'il fuit à bord d'un cargo. Et là, tout se complique et après, on finit presque dans quelque chose de peu gothique, entre vaisseaux fantômes, l'île mystérieuse et artificielle qui magnétise le navire et ils échouent, enfin voilà. Là, ce qui a piloté, disons, l'idée vraiment du film, c'est l'écriture, c'est de retrouver, disons, la densité magnétique de certains récits d'aventure de ma jeunesse, quoi, que ce soit Edgar Poe ou Conrad. Mais en fait, c'est finalement une idée plus littéraire, bien que tout ça, un film, ça se fait. Oui, il faut écrire des scénarios pour pouvoir trouver de l'argent et puis pour ça fait un bastingage vers l'autre rive, si on peut dire. Mais un film s'écrit toute la durée de sa fabrication, c'est-à-dire à partir du scénario, ensuite la préparation, le casting, les recherches de décors, les compressions, les contractions, puisque généralement on fait les films avec 5 fois moins d'argent que prévu, et jusqu'au montage, à la finition du son, de la musique, enfin voilà. C'est qu'à ce moment-là que le film... Mais le film s'écrit jusqu'au bout et peut virer de bord jusqu'au bout, disons.
C'est-à-dire que vous avez laissé beaucoup de part à l'improvisation tout au long du...
Non, ce qui m'amuse, c'est que... Mais les films sont quand même tous très écrits. Les gens croient que je tourne quelquefois sans scénario. Ce qui, à mon avis, est très flatteur.
Les cinéastes ne partent pas forcément d'une idée originale et n'écrivent pas forcément leur scénario seul. Vous, c'est le cas. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le scénario ? C'est juste une étape préparatoire ou c'est vraiment... quelque chose de littéraire qui mérite...
Non, c'est ça qui est un petit peu ingrat, c'est qu'un scénario, en fait, c'est pas une œuvre littéraire, disons. Ça se lit pas en tant que tel. Et donc, si le film se fait pas, c'est une étape transitoire, disons. Alors moi, je le fais avec le plus d'énergie et de précision possible, enfin, pour moi. Et pour les acteurs, puisqu'en fait, c'est plutôt quelque chose qui est censé, pour moi, inspirer les partenaires du film, qu'il s'agisse. Bon, bien sûr, c'est aussi un document qui permet de prospecter en vue de financement. Mais également, c'est ce qui, finalement, inspire les acteurs, inspire les techniciens et nous réunit. Et puis, comme on peut toujours perdre la tête, c'est bien quand même de pouvoir revenir toujours au scénario. À une époque, j'aimais bien dire, il faut écrire les mots et lorsqu'ils sont filmés, on peut les effacer. C'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, ça peut être les intensités lumineuses, la rythmique, qui finalement sont déjà dans le scénario. Bien sûr, il y a les dialogues ou pas les dialogues. Et puis, quelquefois, il y a des redondances, il y a des choses qui sont écrites, mais une fois qu'elles sont visibles, on n'a plus besoin de les dire, disons.
Donc, vous pouvez aller contre le scénario au moment du tournage ?
Oui, enfin, pas contre le scénario, puisqu'en fait, le scénario est finalement comme un... Oui, c'est finalement une énigme. Puisqu'en fait, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans le cinéma, disons que c'est qu'un livre ou un scénario, c'est quand même un document abstrait, quoi, avec des caractères, des blancs, etc., des lignes. Alors que d'un seul coup, un film, c'est incroyable. D'un seul coup, le capitaine mort, c'est Maxime, ben voilà, ça sera Maxime. Voilà. Alors ça, c'est quand même, cette incarnation, disons, c'est complètement hallucinant. Puis c'est pareil, c'est-à-dire que le film se fait vraiment au présent absolu, enfin en cinéma. C'est aussi pour ça que j'ai été fasciné. Au départ, j'étais pas... Quand j'ai commencé à faire des films, avoir l'idée de pouvoir faire des films, j'étais beaucoup plus piloté finalement. Bon, bien sûr, il y avait des salles de James Bond à Eisenstein, en passant par Sternberg, qui étaient des cinéastes qui me fascinaient, mais enfin, le premier James Bond là. Mais en réalité, j'étais beaucoup plus piloté par, il me semblait que ce soit Révolution électronique de William Burroughs ou les films situationnistes, le détournement. Et donc j'ai commencé au tout début des années 80 à pratiquer la vidéo comme ça, de façon un peu sauvage, en Betamax. Hein. On filmait tout le temps avec du temps d'MKB.
C'était quoi la Betamax ?
Betamax, c'était l'autre format, disons, rival du VHS, qui a perdu, mais qui était pas mal, puis ça donnait ensuite le Beta SP, le Beta Num, etc.
Les premières caméras vidéo ?
Non, c'est pas les premières, parce qu'en fait, c'est les caméras. Il y avait deux formats qui étaient rivaux, disons, dans les années 80, qui étaient Betamax et VHS, voilà. Puis le procédé VHS a gagné, enfin, voilà. Et donc, j'ai été beaucoup plus, disons, entre les films situationnistes et l'idée que je pouvais avoir de faire des films entre Détournement, voilà, et William Burroughs, Révolution électronique. Et puis, dès que j'ai commencé à faire un film, puisque j'ai fait mon premier film en un jour, qui s'appelle La dernière énigme, et là, j'ai tourné en pellicule noir et blanc, et là, ça a été, j'étais captif. Et j'ai fait l'histoire à l'envers, un peu comme les punks, quelquefois, fait l'histoire de la musique à l'envers, quoi. Qui sont partis de l'État, qui sont remontés. Et ce que je voulais dire, oui, c'est que le cinéma, en pellicule, disons, se fait, c'est le seul mode d'expression qui se fait au présent absolu. Et ça c'est quand même très, très étrange. C'est-à-dire que, bon, en vidéo, bon, sûr, en numérique, on peut corriger, donc c'est pour ça que c'est pas la même chose. Mais finalement, le cinéma tel que le pratiquent les Européens, sans des effets spéciaux censés, ou du moins des effets spéciaux directs, la prise de vue, ben, on filme, et après on monte. Alors c'est quand même incroyable, parce que vous avez, disons, on va dire, vous avez par exemple 36 jours de tournage, ben voilà, il faut écrire 36 chapitres en 36 jours. Et après, la seule chose, opportunité qu'on aura, c'est juste de monter. Donc c'est comme s'il y avait 36 jours d'écriture, et après, le seul recours, c'est de monter les pages écrites en 36 jours. Mais c'est définitif, c'est-à-dire, et puis, c'est quand même hallucinant, parce que c'est exactement... du temps zéro au temps 1 minute plus 20, par exemple, qu'un plan est tourné, ou plus 20 secondes. Donc c'est exactement, que ce soit les états lumineux de la nature ou l'état, disons, de combinaison sociale ou psychique entre les gens qui participent au film, c'est quand même une espèce de cérémonie magique. Alors, magique, accidentée, tout ce qu'on voudra, mais on fait juste que monter. Alors qu'en peinture, quand même, il y a plus que du montage, en musique aussi, ou en... Ben voilà, donc c'est quand même une expérience radicale et primitive pour moi, le cinéma.
On va se plonger dans un premier extrait qui est tiré à peu près du milieu du film de Neuf Doigts.
Dehors, le ciel crache des éclairs. Dans moi, c'est tout pareil. On sombre, on coule, on plonge. Je suis froid. Sans conviction, embarqué avec la marchandise de mort. Kurtz fait semblant de commander, et Ferrand aussi. Quant à moi, je ne suis plus là.
Est-ce que vous vous souvenez de ces deux plans ?
Oui, je me souviens. Je crois que c'est Paul Amy. Dehors, il y a l'orage, la foudre tonne. Et donc, les lumières passent par les hublots, les éclairs. Et donc, c'est une espèce de voix parlée, dite. Enfin, dit, oui, c'est-à-dire qu'il rêve. Et puis ensuite, je crois que ça doit être la musique qui est sur le départ du vaisseau, quoi.
On voit la mer.
Ahmed Volkenson 5.
Et on voit la mer déchaînée. À propos de tempête, on a retrouvé une carte postale que vous avez envoyée au magazine Trois Couleurs, où vous dites Il y eut la tempête en juin dans le sud-ouest, la navigation sur un porte-container aux Açores, un long tournage dans les soutes, la course sur les volcans, un débarquement en Zodiac sur une plage nue durant lequel j'ai manqué de me noyer, les conspirations, l'étude spéculative de la ficilité du monde et la simple fin de l'homme. Et vous concluez, épuisé mais pas mort. Quel genre d'aventure a pu être ce tournage ?
Oui, c'est-à-dire que le film était vraiment en péril, disons, moins de 2 mois avant son tournage, puisque une production m'a abandonné, donc on a repris avec OSS 100, et un jeune producteur, là, 10-15 productions, on a repris le film et on a tout de suite entamé le tournage. Et donc ça a été une chance, en fait, de faire le film en 2 étapes, puisque le film a d'abord été tourné en France pendant 2 semaines, et le reste a été tourné ensuite Portugal et Açores, une grosse partie aux Açores, en septembre, à partir de septembre. Et je me souviens que pour rejoindre par la route Biarritz, où démarrait le film, puisqu'on a tourné à Biarritz et à Pau, à l'époque, on a dû faire 300 km de détour parce que la France était complètement inondée. Et ça a été aussi de la chance, puisque j'ai tourné les scènes que j'ai tournées, il y avait vraiment la tempête à Biarritz. Et donc, c'est les scènes de début, mais on peut avoir des scènes comme ça, hein, ce genre de scène, filmer ce genre de dégènement des éléments au mois de janvier ou février, mais pas au mois de juin. Là, j'ai tourné au mois de juin. Donc, c'était une chance. Et puis ensuite, oui, bon, ça a été toute l'aventure de retrouver les Açores, le bateau. Il y a 5 bateaux différents. Et puis, c'est vrai que la mer est assez ombrageuse, pourrait-on dire, inattendue aux Açores. C'est des grosses vagues, quelquefois très lentes, mais on s'aperçoit qu'il y a 4 mètres de... il y a un creux de 4 mètres. Et puis on a failli ne plus pouvoir repartir d'une plage qu'on visitait, en fait, mais qui était une plage qui allait être recouverte par la marée, et on risquait d'être écrasé contre la falaise, voilà. Donc il a fallu reprendre.
Et donc vous avez joué avec la mort dans ce tournage ?
Non, ça a été un hasard, quoi, parce que j'avais arrêté sur un coup de tête de fumer, et pendant 3 ans ça m'ennuyait beaucoup, je ne comprenais pas pourquoi j'avais arrêté de fumer. Et puis là, finalement, y a bien une espèce de providence, puisque si je n'avais pas été fumé, je n'aurais pas pu rejoindre le Zodiac. Voilà.
Vous tenez un journal de vos tournages ?
Quelquefois, quelquefois non, ça dépend. Mais souvent, je suis tellement... on est tellement... parce qu'en fait, réalisateur, c'est vrai, c'est tellement prenant, quand même, parce qu'on s'occupe de la déco, des costumes, des maquillages, de la mise en scène. Enfin, on est avec les chefs de poste, quoi, tout le temps. Surtout que moi, finalement, mes films se réinventent presque au jour le jour. Puisque sur ce film, il y a beaucoup de décors, enfin de décors construits que j'ai découvert le jour même, quoi, presque, du tournage, quoi. Donc j'étais tout le temps... Le film a été difficile à produire. En fait, là, j'avais beaucoup de gens plus jeunes que moi.
Dans votre équipe
oui,
de tournage ?
Oui, oui, ça a été vraiment... Il y a eu une espèce de grande harmonie dynamique sur le film. Notamment avec le décorateur, par exemple, qui avait 32 ans, qui était un jeune Brésilien qui s'appelle Maché, Mathias Montero, qui est super. Bon, la photo, c'était pareil. Donc, un excellent assistant aussi, Luc Catania. Enfin,
à la réalisation ?
Oui, assistant à la réalisation. Bon, Elvire était aussi toujours présente. Et finalement, le film s'est fait avec une certaine harmonie. Mais c'est vrai qu'on avait 36 jours de tournage exactement. Mais on ne pouvait pas rater une après-midi, quoi. Sinon, ça allait manquer dans le film.
Ça ressemble à quoi, une journée de tournage normale ou anormale sur un film de FJO 100 ?
Ah, ben, c'est comme sur tous les films. Hein. C'est-à-dire qu'on démarre le jour ou la nuit. Des tournages de jour et des tournages de nuit. Alors, donc c'est des rythmes différents, c'est-à-dire parce qu'il faut quand même que l'équipe ait le temps de se réacclimater au jour ou à la nuit, puisque j'ai eu des périodes de nuit, des périodes où on tournait le jour, d'autres des tournages de nuit ou en intérieur. Voilà. Oui, de toute façon, chaque film est vraiment différent comme expérience.
Il
voilà.
n'y a pas de journée type de tournage chez vous ?
Non, parce que... Il y a des scènes, on filme en muet avec un Zodiac, une caméra, on parle à l'improviste un peu. Et puis d'autres fois, c'est presque en... Moi j'aime bien faire quelquefois du faux studio, disons, que ce soit dans des hangars ou dans des soutes de bateaux, reconstruire finalement. Et donc c'est une espèce d'alternative entre le filmage dans des conditions réelles, quoi, de lumière, et finalement l'artifice d'un espace confiné...
Comment est-ce que vous dirigez vos acteurs ?
Ça, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire.
Vous répétez avec eux ? Vous leur parlez du scénario ?
Ah oui, bien sûr, on se voit un peu. Mais en fait, c'est vrai que je répète assez peu. Enfin, si, on répète, bien sûr. Mais disons plutôt pour peindre ces marques, mais j'aime bien conserver la fraîcheur de la prise de vue. Parce que je sais qu'il y a des réalisateurs qui répètent presque comme au théâtre et qui ensuite lancent les acteurs. Non, ça, c'est pas mon cas. Non. J'aime bien garder, disons, la force de l'accident aussi.
Les acteurs comprennent toujours ce que vous leur faites dire ?
Ah, ça, il faut leur demander.
À votre avis ?
Mais j'aime bien aussi que les acteurs soient un peu débordés par le texte, notamment avec Guy McKnight, c'était extra. J'ai fait deux films avec lui, donc c'est le chanteur de. C'est le chanteur de The 80's Matchbox Behind Disaster, donc qui est britannique, d'origine écossaise, je crois, de Brighton, et qui était le chanteur de The 80's Matchbox Behind Disaster, qui est un très bon groupe. On s'était rencontrés en 2003, et ensuite on a fait en 2007, on s'est retrouvé à Vladivostok pour Ciel éteint. De 25 minutes, et puis Darmagens. Et c'est vrai que j'aimais bien parce que, donc, il parlait comme ça, presque de façon phonétique, mais il voulait pas absolument parler français. Et il y a des moments, comme ça, j'aime vraiment sa présence physique active, disons. Bon, on dirait qu'il est presque débordé par le texte, mais ça donne une épaisseur à la parole différente. Mais disons que, oui, surtout mes films, j'aime bien varier les tempos ou l'attaque du monde par les acteurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui peut être. Quelqu'un comme ça, d'un peu sauvage, dans notre, presque dans l'improvisation, entre tous les comédiens, surtout sur Neuf Doigts, tout est différent, que ce soit entre Lionel Thuat, entre Damien Bonnard, ou Paul Amy, et puis Pascal Grégory, par exemple.
Vous choisissez souvent des acteurs en fonction de leur voix. Vous avez aussi d'autres critères physiques, une gueule.
Oui, je sais pas... Parce qu'en fait, c'est un ensemble. Hein. Des fois, ça se précipite comme ça, et puis c'est comme ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un tel, plus un tel, plus un tel. C'est un petit peu comme une partition, finalement. Réunir des acteurs ou des non-acteurs. Quoi.
Que représente l'acte de cadrer un plan et, d'une certaine façon, le monde ?
C'est magique, puisqu'en fait, donc le cadrage et le montage savent ensemble. Et c'est redécoupé. Alors, par la lumière ou par le cadre, et bien sûr le montage ensuite. Et c'est toujours vertigineux pour moi de voir ce qu'il en ressort. Quoi. Aussi bien, c'est ce que j'appelle la déterritorialisation, puisqu'en fait, souvent dans mes films, les gens ne reconnaissent pas les lieux. Quoi. Comment on réinvente un lieu, on le voit de son point de vue aussi, et on le donne à voir différemment, qu'il se donne un premier accès à la réalité, disons.
Dans Mercure insolent, votre essai, vous citez William Burroughs dans Les garçons sauvages, qui disait « La caméra est l'œil d'un vautour au-dessus d'une région située dans les faubourgs d'une ville mexicaine, une région de détritus, de moellons et de bâtiments inachevés. » Qu'est-ce que cette phrase vous inspire par rapport au fait de cadrer ?
C'est curieux, parce que le livre en question est un livre sur le cinéma qu'on demandait, bon, après, une espèce d'imprécation contre la numérisation généralisée du monde, pourrait-on dire, mais c'est quand même un livre sur le cinéma, mais disons que le questionnement rebondit tout le temps, finalement, par le retour à de grands écrivains ou de grands poètes, quoi. Enfin, des gens qui m'ont beaucoup marqué. Et c'est vrai que Burroughs est un écrivain immense, et notamment la trilogie des garçons sauvages, donc il y a Les garçons sauvages, il y a Havre des Saints, et aussi Apukela. Alors, également, bien sûr, William Burroughs est un grand écrivain, je crois que c'est un des plus grands poètes de notre époque, en fait, de l'époque où il a vécu, disons d'après-guerre, et... Mais en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été magnétisé, et par le son et par l'image. Et à un moment, je disais, oui, c'est Artaud. On peut vraiment regretter que ni Artaud, ni Burroughs, qui rêvait de faire des films, au fond, n'aient pas pu le faire. Quoi. C'est des grands manques. Quoi.
Par rapport à la caméra comme œil d'un vautour ?
Ah oui, disons que c'est des blocs de texte comme ça, qui sont vraiment comme des blocs mentaux, qui m'ont beaucoup marqué. Ça, c'est l'ouverture, je crois que c'est quasiment l'ouverture des Garçons sauvages. C'est ce qu'il dit d'ailleurs lui-même pour justifier le cut-up. Donc, d'ailleurs, il est le seul vraiment, je pense, écrivain à avoir pratiqué le cut-up. Mais enfin, c'est quelque chose qui est nouveau, pas nouveau, puisque disons qu'il a épuisé toutes les manières, il a utilisé toutes les voies possibles pour épuiser la possibilité de ne pas écrire. Voilà. Alors que ça soit par les scrapbooks, par les compilations sonores, par ses enregistrements, ses piratages de sons, ses constitutions de banques d'images, etc. Et donc, il explique que finalement, le cut-up, ça a toujours existé à la salle de montage d'un film. Voilà.
Toujours dans Mercure insolent, là, c'est vous que je vais citer. Vous dites « Il n'existe objectivement que deux ressources cinématographiques au départ, le visage et le paysage. Ensuite, on se verra tendre des histoires entre ces figures pour organiser les flux et reflux dialectiques, lumière. »
Oui. C'est-à-dire qu'on filme le landscape, le paysage, ou on filme le paysage finalement. En gros, c'est quand même fondamentalement les deux points extrêmes, quoi. Et on peut filmer le visage comme un paysage ou le paysage comme un visage.
Et donc vous naviguez entre les deux ?
Oui. Et je me réserve toujours des moments pour filmer ce que j'appelle les plans vides, enfin, qui ne sont pas directement des plans de mise en scène de comédien dans le cadre, quoi. Parce que ça, il faut attendre, je sais pas, c'est comme un poème finalement. Il faut que ça soit. Ça peut se tourner très rapidement, mais il faut l'instant propice.
Comme vous l'avez dit, vous avez collaboré avec un jeune chef opérateur sur Neuf Doigts, Simon Roca, qui est sorti de l'école Louis Lumière en 99. On l'a vu récemment sur le film Sophia Antipolis, en 16 mm, de Virgile Vernier, réalisateur français que l'on a reçu dans l'émission. Pourquoi avoir choisi Simon Roca sur ce film, enregistré en pellicule et en noir et blanc ?
C'est-à-dire que moi, je vais chercher justement, de toute façon, un opérateur qui sache faire du cinéma, quoi. Donc lui avait fait
la pellicule.
Oui, c'est la même chose. Oui, parce qu'on appelle ça le cinéma numérique, mais je pense que c'est autre chose qui se déploie, qui va se déployer. Alors moi, moi j'aime beaucoup la vidéo, par exemple. Donc, j'ai rien contre la vidéo ni le numérique. Mais disons que ce film, ça m'aurait beaucoup coûté. Hein. Je crois que le film aurait été mauvais si j'avais pas pu le faire en pellicule. Parce que je pense qu'on ne fait pas du tout les mêmes films. Selon qu'on, même si c'est le même scénario et quand ça se traîne plus ou moins, même dans le cinéma, je ne sais pas comment j'aurais pu conserver le contrôle sur le film parce qu'il y a une discipline organique avec la pellicule, puisque la pellicule est comptée, tout coûte cher et tout le monde est tendu quand même si le film se passe comme il doit se passer. Tout le monde est tendu dans le même élan, que ce soit des comédiens, des techniciens, et justement il y a une espèce d'ardeur collective qui est plus intéressante finalement que le seul précepte individuel respecté par l'un ou par l'autre pourrait donner, quoi. Voilà, donc il y a toujours cet accident à l'œuvre, cet accident et la nécessité qui est finalement voilà. Oui, alors que le numérique, je pense, c'est différent, même si ça ressemble au cinéma une fois que c'est fini, c'est pas pareil puisque tout est recréé. Disons le cinéma, c'est argentique, disons qu'il y a une réalité objective. Il y a une réalité physique, chimique et optique. Parce que comme le cinéma numérique, c'est un cinéma fait par des capteurs qui imitent les effets du cinéma argentique, disons. Et donc, c'est beaucoup moins bruit. Enfin, on peut trouver une autre brutalité, une autre...
Mais qu'est-ce que ça change quand les films sont projetés en DCP, en numérique ou en DVD pour les spectateurs?
C'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'après, c'est sûr, on est tous devant maintenant des grands postes de télévision. On regarde un film, alors bon, c'est vrai, mais je pense que c'est différent de toute façon qu'on regarde. C'est surtout que ça donne pas le même film, c'est la façon de le faire. Et puis je sais pas, moi c'est presque sexuel, c'est-à-dire que me dire que je décharge tous les soirs dans un ordinateur, non. oui, quand ça sera fini. Mais c'est comme la techno, c'est vachement intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien l'électricité, la machine à écrire. La caméra, la pellicule, la guitare électrique, et la machine à écrire, voilà.
Pourquoi alors continuer à filmer en noir et blanc ?
Mais de toute façon, en plus, c'est vrai que moi je discerne assez facilement un film qui était tourné en numérique, même en noir et blanc. Alors tout le monde dit la photo, mais ça s'appelle la photo. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'organique qui est enfin, quand le film est réussi, hein, qui n'est pas là, je trouve, en numérique. Mais de toute façon, comme le film est de plus en plus maltraité et que techniquement tout est fait pour le numérique, c'est certain que ça gêne pas du tout, parce qu'en fait les films numériques sont très valorisés par la projection, par leur projection, alors que finalement maintenant on revient à la préhistoire quand on veut projeter un film en 35 mm. Les machines sont déréglées, les écrans sont, je sais pas. Enfin voilà, mais de toute façon c'est économique, ça. Je sais pas comment dire. Oui, puis de toute façon, si ça se trouve, un jour, on n'aura plus le choix, on ne pourra plus tourner. Soit il faudra ne plus tourner, soit tourner en Super 8 ou en 16 mm noir et blanc qu'on développera dans la baignoire, ou tourner en numérique, parce qu'il n'y aura plus que ça. Comme dans beaucoup de pays, maintenant, il n'y a plus de laboratoire. Donc, je pense que c'est important de tourner, de tout faire pour tourner en pellicule, si on le veut. C'est comme, je ne sais pas, si on a envie de peindre sur de la toile, sur une toile avec de la peinture, pourquoi ah non, moi je vais être dans le coup, je vais tourner, je vais peindre sur ordinateur. Moi, je suis dans le coup, hein.
Comment un directeur de la photographie vous aide dans la recherche de la lumière ?
Ah ben alors tout ça, c'est une fusion, parce qu'en fait, la personne la plus importante sur la plupart des films, c'est souvent le décorateur avec qui je cherche les choses. Ensuite, oui, puis il y a beaucoup de mes films qui sont tournés presque en lumière naturelle, avec des corrections de filtre ou pas. Mais en fait, la lumière, quand j'ai souvent assez peu de moyens, c'est quand même une... Il y a une évidence qui naît, qui fait apparaître... Oui, c'est collectif, donc ça se fait ensemble.
Il peut y avoir des impulsions du côté du chef opérateur qui va vous donner des idées pour dire il faut saisir ça, ou c'est...
Ah ben, tous les jours, c'est-à-dire que si par exemple on devait tourner dans un garage de 100 mètres de long, et puis d'un seul coup on se retrouve obligé de tourner dans ce studio qui n'est pas très grand, d'un seul coup il faut inventer et s'adapter à la nécessité, quoi. Alors il y a aussi ça qui fait force de loi. Puis s'il fait beau au lieu de pleuvoir, ça change tout, mais on tourne quand même s'il pleut. Enfin, et c'est là, et quelquefois, c'est là le sublime du hasard, quoi. C'est que c'est là que le film, en éclairant un peu sous la pluie, ça va être mille fois mieux. Ça se fait toujours différemment, et tous les films se font différemment, suivant les personnes aussi, suivant les... Alors c'est là aussi que le scénario est important, parce qu'il indique... Parce que comme on est souvent presque dans un état second, je trouve, dans un film, on est presque emporté. Et c'est bien de revenir au texte, à l'acteur. Mais disons que je repars souvent beaucoup de l'acteur, maintenant. Et souvent, les acteurs m'ont beaucoup aidé à négocier les films, disons. C'est-à-dire qu'en fait, oui, les acteurs ont défendu souvent fanatiquement les films, en les faisant. Et bien que je ne sois pas un metteur en scène d'acteur, à la mesure où je n'ai pas une carrière de metteur en scène de théâtre, mais j'ai beaucoup appris, par contre, dans le rock'n'roll ou le noise roll. Mais dans l'urgence, dans le fait d'être là, j'ai un petit peu joué quelquefois dans mes films. Et donc, je sais aussi ce que c'est... Que de toute façon, tout passe par l'acteur. C'est son corps, c'est sa voix. Donc, on ne peut pas dire... c'est un peu vain de dire cette tyrannie de l'acteur, du metteur en scène. C'est plutôt un autre sort, je pense, le metteur en scène. C'est quelque chose de plus magnétique, magique. Je ne sais pas de quoi ça... Puis c'est un espace respiratoire, tellurique et magnétique et lumineux qu'on partage. Et on est tous... Enfin, un film, un plan, une scène... Voilà, je sais qu'il n'y avait pas de drogue, et des gens disent oui, il y avait beaucoup de drogue sur tel. Non, c'est faux. Et tous les acteurs ont l'air de fantômes, je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait. C'est ça le cinéma, en fait. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une différence quand même entre les techniciens et les acteurs. C'est-à-dire que quand un film est mauvais, raté, disons, le réalisateur, autant que les acteurs, sont finalement déshonorés. Parce que les autres peuvent toujours s'en sortir en disant oui, mais il devenait fou, il n'y avait pas les moyens, il y avait. Voilà. Alors que non, les acteurs, ils doivent rendre compte, parce que quand on les voit, c'est un mauvais film, quoi. Et donc, on a une alliance objective concrète.
Financièrement ?
Oui, d'une part, parce que vraiment, ils ont été tous très chics sur le dernier film, puisque le film était tourné de façon un peu communiste, puisqu'on était tous payés pareil sur le tournage, les techniciens d'un côté et les acteurs de leur côté. Après, il y a des intéressements différents, enfin, je ne sais pas comment ça se négocie, toutes ces affaires, mais... Donc il y a eu vraiment, comme on était très au-dessous, parce qu'en fait, oui, aussi, les films se tournent en numérique parce qu'il y a de très gros salaires. Voilà. Alors que là, si on veut tourner en argentique, c'est un peu plus cher. Il faut être plus économe en pellicule quand on ne peut pas faire 40 prises, etc. Mais donc ici, il y a une autre urgence. C'est vraiment une autre façon de faire les films, je crois. Mais je comprends tout à fait que les gens qui sont nés avec un smartphone, ils adorent tourner en... Oui, d'ailleurs, c'est sans doute le smartphone qui est l'avenir du post-cinéma, quoi.
Pour reprendre les derniers mots que vous avez écrits sur votre carte postale à trois couleurs, épuisé mais pas mort, comment est-ce que vous arrivez à terminer un film ?
Mais tous les films, j'ai jamais dépassé. Ça va du temps zéro au temps X, et puis un jour c'est fini le film. Et donc c'est fini, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de pellicule, et donc le film doit être fini. Et depuis mon premier court-métrage, j'ai toujours. J'ai pas dépassé. Il y a des réalisateurs où il y a beaucoup de retake. Il y a des deuxièmes tournages, etc. Moi, non. Le jour, c'est fini.
Qu'est-ce que c'est le cinéma Noise and Roll ?
Ah, le cinéma, non, je ne sais pas. Il y a le Noise and Roll, le cinéma Noise and Roll, la poésie. Je crois que c'est une chanson, il y avait poésie, cinématographe, Noise and Roll, bruit d'atome.
Quand est-ce que vous achevez le montage d'un film ?
C'est pareil. À un moment donné, ça y est, c'est fini. Mais je monte en général assez vite. Donc je suis jusqu'ici, puisque du jour au lendemain, on peut changer tout, hein, façon de faire les films, passer au numérique, tourner sur 2 ans, déléguer le montage, j'en sais rien. Bon, donc les films ne sont pas prémontés jusque-là, parce qu'il y a des films qui sont prémontés pendant le tournage, certains. Hein. Et puis après, souvent il y a un break, puisqu'il faut quelquefois retrouver des sous pour attaquer le montage. Et là, je suis à peu près à chaque seconde du montage, et c'est vraiment la grande épreuve. Quoi. Mais on revisite le film, c'est un tour par zéro.
Vous montez en numérique ?
Oui, maintenant, oui, parce qu'en fait, disons, j'ai fait Morriture en 84, Les Chiennes, donc Morriture était en 16 au départ, ensuite gonflé en 35, Les Chiennes en 91, puis Docteur Chance en 97-18, et là, il y a eu un grand trou, je ne pouvais plus du tout faire de film. Et finalement, j'ai eu de la chance, puisque j'ai tourné ce que j'appelle le triptyque du paysage. Donc
trois des courts-métrages.
Voilà, trois courts-métrages, de tout petit budget, puisqu'il y en a un en 16, l'autre en Super 8, en scénarisant ça argentique, hein, si on peut dire, un en 16 mm, un autre en Super 8, un autre en 35 mm, dont deux à Vladivostok, sur la côte pacifique.
Silencio, oui. Ciel éteint et Vladivostok,
voilà.
Qui sont dans le DVD d'Armagens.
Voilà, et j'aimais beaucoup cette époque, parce que j'ai redécouvert, disons, le cinéma, mais en même temps, disons, il y avait un statu quo entre le numérique et l'argentique, c'est-à-dire qu'on pouvait tourner en 16, 35, ensuite on montait une bande vidéo, quoi, c'est un télécinéma, et ensuite on conformait en film, et après on numérisait la pellicule, en fait, etc. Et ça, c'était extra, parce que ça m'a beaucoup plu, donc je me suis habitué. Alors ça a été une discipline, parce que je n'aurais pas cru que c'était possible, mais j'ai dû m'astreindre à monter, parce que moi j'ai toujours monté pour toujours pratiquement. C'est-à-dire qu'une scène, je rentrais dans la scène et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gravité dans... Parce que quand on est en 35, il faut manipuler, hein, c'est du boulot, hein, c'est pas juste appuyer sur trois boutons et puis c'est fini. C'est des assistants, il faut classer le son, classer l'image, on a coupé là. Puis c'est quand même du lourd, quoi. C'est du hardware, c'est pas du software.
Et, matériel.
Et donc on est très concentré comme ça, tac, tac, on coupe là, 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 là. Enfin, pareil, il y a des moments de lévitation, je trouve, au montage, bien que ça soit lourd, et je me rappelle particulièrement de Docteur Chance, qui était comme ça, qui est très très découpé avec beaucoup beaucoup de plans. Et donc j'ai essayé de faire pareil sur les courts-métrages. J'ai démarré, j'ai commencé par apprendre là les rushs par cœur. Et regarder pour voir... pour connaître par cœur, disons, ce que j'allais monter. Et ensuite, je rentrais dedans comme ça, on rentrait dedans avec... pour toujours. Alors que je sais qu'il y a des films, je ne sais pas comment ils font. Alors les gars font 3-4 versions alternatives par scène, et ça fait, il y a quasiment 900 versions de films, quoi. Et comment ils font pour classer tout ça, je ne sais pas à la fin.
Pour faire des choix peut-être difficiles, hein.
Oui, puis après, à la limite, il y a la version du producteur, du chauffagiste, je ne sais pas, non. Alors que là, et puis ça se fait à 2-3 personnes, c'est pas mal. Hein. Et ensuite, il y a le retour à la pellicule. Enfin, voilà. Donc tout ça, et à la fois le numérique pouvant être l'opportunité de mêler la vidéo, du Super 8, du 35, du numérique dans un film. Quoi. Ça, c'est quand même très précieux, comme ça, de pouvoir... Alors qu'autrefois, ça pouvait coûter des fortunes de gonfler un Super 8 en 35, par exemple. Alors que là, c'est vraiment drôle, quoi. On peut donc tous les jours faire son journal, le mélanger dans un film. Enfin, je sais pas, il y a des...
Un côté ludique.
Là, oui. Et ça n'empêche pas que... enfin, je sais pas. C'est comme la pellicule, c'est pas forcément cher. En fait, je veux dire, j'ai fait les courts-métrages pour des... Les courts-métrages et les longs-métrages en 16 mm du début, avec des sommes... Morituri, c'est le budget d'un court-métrage. Donc, les gens qui ont plus de 3 millions qui disent « Ah non, tu sais, Coco, on pouvait pas... Hein, on n'avait pas les moyens d'avoir la pellicule. »
C'est combien comme budget, 9 doigts ?
Le film est quand même tourné pour moins d'un million de...
Moins d'un million ?
Moins d'un million d'euros.
C'est vraiment un petit film, à l'échelle
du
cinéma français.
Exactement, et c'est tourné en 35 mm, voilà. Noir et blanc, Common Boys.
Donc c'est possible.
Oui, ça a été difficile, il y a eu quand même une coproduction d'un laboratoire, une coproduction... à visage humain. Quoi. Ah oui, bah, dire que le noir et blanc, c'est quand même le parfait instrument de cinéma. Je crois que c'est Julien Gracq qui dit que le cinéma, ça se fait en muet et en noir et blanc. Ensuite, après, bien sûr, après, on peut rajouter de la couleur et du son. Et disons que déjà, dès que la couleur apparaît, c'est déjà presque la télévision. Et alors, bien sûr, quand on se retrouve enfermé dans une salle, que ce soit un film en noir et blanc, si le film est intéressant, en une minute, on est plongé avec la même intensité que le film soit en couleur ou en noir et blanc. Mais le noir et blanc, disons que c'est parfait pour les visages et pour les paysages, au sens de la déterritorialisation, aussi bien que c'est la croix des regards là, des acteurs. Et c'est parfait, je trouve. Et c'est une grande économie sur tout le reste de l'économie artistique, disons. Puisque on peut avoir des décors, des costumes, des maquillages beaucoup plus primitifs. Quoi.
Est-ce que vous retravaillez le noir et blanc avec de l'étalonnage numérique ?
Mais c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus faire... déjà, enfin, sur le dernier film, on ne peut plus... en France, quasiment, enfin, quand on fait quand même un film un peu industriel, si on peut développer dans la baignoire, on y mettre, mais je crois qu'on ne peut plus utiliser la voie photochimique de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les films sont tournés, ensuite ils sont... Donc là, déjà, il y a une énorme économie. Hein, puisqu'en fait, un film comme Docteur Chance, tous les rushs pratiquement étaient tirés. Donc ça faisait beaucoup de pellicules. Il y avait déjà 7 fois la pellicule de négatif, qui était, enfin pas 7 fois, mais 5 fois à peu près, qui était développée et tirée. Alors maintenant, on ne fait que tirer, ensuite on fait un télécinéma, on monte cette version et ensuite on conforme le film au montage. Quoi. Par exemple, un bon exemple, c'est Darmaguns. Donc Get Darmaguns s'était tourné donc, en 35 mm noir et blanc avec Gleb Téléchoff, avec qui j'avais fait deux courts-métrages, qui étaient un en Super 8, qui était Vladivostok, et en 35, qui était Ciel éteint. Et ensuite, bon, j'ai fait le montage. On a fait l'étalonnage numérique en 3 jours, tout compris. Y compris la révision. On était très, très serré en budget. Mais, alors que je sais qu'il y a des gens qui passent 2, 3, 4 mois en étalonnage. Donc, ils refont tout le film. Et, alors ça aussi, c'est une chose importante. C'est-à-dire qu'une fois que le film est tourné, il est tourné. Il existe. On pourrait dire sur le négatif, il y a la vérité du négatif. Bon. Alors que les films numériques sont quand même recomposés à l'ordinateur. Et donc, il y a des coûts de post-production beaucoup plus importants aussi. Ça, c'est à prendre en compte. Et comme souvent, on n'a plus d'argent à la post-production, ou très peu, c'est bien de... Parce que le film est tourné, il est tourné, quoi. Et autrefois, c'était extra. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir... Une fois qu'on avait monté et mixé le film, ben, le film existait en double bande, quoi. Même quitte à un peu le projeter avec des colures scotch et une bande-son double bande, quoi. Et quitte à trouver l'argent ensuite pour le terminer en étalonnage ultime. Et, donc il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte aussi sur le plan économique, je crois. Sauf que le problème, c'est que le jour où il n'y aura plus de pellicule, plus de laboratoire, ça sera fini. Voilà.
À moins d'être dans l'artisanat de toute façon, avec sa baignoire.
Oui, mais en fait, tout ça, il y aura toujours le problème de la pellicule, parce que
il faut la fabriquer.
C'est très compliqué à fabriquer. D'ailleurs, les Français ne faisaient plus de pellicule depuis longtemps. Hein, et, parce que c'est d'énormes plaques comme ça. Et en fait, ensuite, une émulsion, quoi, des plaques de pellicule, et ensuite qui sont débitées en 70 mm, 35 mm, 16 mm, ou Super 8, par exemple. Mais c'est la même émulsion, c'est la même. C'est ça qui est incroyable. C'est la même matière première, disons, qui est débitée en tranches de taille différente. Mais alors, justement, pour produire cette pellicule, il faut quand même. un savoir-faire et une. Mais c'est tout une industrie, voilà. Alors ensuite, c'est pas très compliqué de recréer des laboratoires de noir et blanc. Tant qu'il y a de la pellicule noir et blanc, bon, après, c'est pas une usine à gaz comme la couleur.
Tenez-vous à la distribution de ce long métrage en salle de cinéma ?
Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est important de voir les films en grand écran. Moi, je sais que j'ai découvert, dès mon retour là, d'Amérique du Sud, j'ai vu justement un film que j'avais jamais vu. On m'avait tout le temps parlé. La montagne magique là, de Jodorowsky, j'ai vu en grande salle, cinémascope 4K. Bon, 4K, d'accord, mais le 4K est quand même...
Numérique.
Oui, mais très fidèle au 35. Le 4K est aussi bon que le... Enfin, aussi bon. Donc le 2K réduit un peu le 35, quoi. Alors que c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas la même expérience de voir le film en pellicule ou en numérique, je pense. Ça, c'est encore une autre question. Mais de le voir en grand écran, c'est très important, parce qu'il y a quand même une projection... Et puis, c'est un choc de découvrir le film comme ça. Après, moi, je sais que je vois beaucoup de films en vidéo, mais ce qui est fou, c'est de voir les films en vidéo, ou quelquefois même en numérique, et ben, je les oublie. Alors que quand je les ai vus en pellicule, ben, ils restent comme ça. Il y a des...
Quelque chose qui se fixe.
Oui, qui se fixe beaucoup plus profondément. Même si c'est, bien sûr, un souvenir pas exactement réaliste, hein, puisqu'on invente des plans dans le souvenir. Enfin, dans les bons films, on invente des plans qui ne sont pas dans le film. Et c'est vrai que, alors que souvent... Quand je cherche des films, je peux les acheter deux fois. Enfin, ou les choisir dans des vidéoclubs, s'il n'y a pas la fiche qui me... me tromper, enfin. Alors que, je sais plus, j'ai vu, il y a des films que j'ai vus il y a 30 ans, je m'en souviens toujours. Quoi. Je pense, de toute façon, ça agit différemment sur la conscience. Et je pense aussi que c'était une opportunité que les exploitants ont perdue, qui était finalement, parce qu'en fait, les projections numériques devraient coûter 1 euro. Tandis que les projections un peu de luxe seraient en 35 mm ou 70 mm. Ça commence à essayer de faire jour. Mais c'est certain que c'est une autre expérience, je crois. Alors le problème, c'est que c'est vrai que si c'est pour avoir une projection lamentable en 35 ou une bonne projection en 4K, bon, parce que c'est ça, c'est le cinéma, c'est l'hypermatérialisme. La façon de faire des films, c'est une espèce de métaphysique de l'hypermatérialisme. Un peu comme l'alchimie, quoi. Et alors une fois qu'il y a plus les, il y en a plus les, ben alors même quand on fait le film, bon, ben c'est de la pierre ou c'est de la brique, c'est de la tuile, c'est du parpaing, c'est des adobes, en fait tout change. Et on fait avec ce qu'on a. Et ça détermine tout à fait la forme et la réalité du film. Sur qui pleut, qui pleut pas. Enfin, puisque ça doit être fait le 14-03-2051, de 14h02 à 14h03-54, le plan sera tourné exactement à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là que les éléments vont parler.
On va écouter un deuxième extrait qui vient de votre film Les Divisions, l'affaire des divisions Morituri. Ce film, c'est votre film de fin d'études que vous avez réalisé à l'IDEC. Vous avez été reçu au concours de l'école de cinéma à l'IDEC en 1980.
Voilà.
École qui est devenue aujourd'hui la FEMIS. Pourquoi avoir fait une école de cinéma?
En fait, oui, entre la poésie et puis le rock and roll, ou le noise and roll, je me suis retrouvé No Future. No Future. Et donc, c'est vrai que vers 23 ans, comme ça, j'ai tout remis en jeu.
No Future, c'est-à-dire
C'est-à-dire que les voies étaient bloquées. Parce qu'en fait, vivre sans rien faire, si on peut dire, assez jeune, ça va. Mais à un moment donné, c'est pour ça que je dis, dans une chanson, à 25 ans, tout le monde connaît la fatigue. Et donc, à 23 ans, j'ai passé le concours, je l'ai eu. Et c'était un peu du pile ou face, comme ça. Et j'ai fait l'école parce que, n'étant pas du tout de milieu de cinéma, j'aurais jamais imaginé faire du cinéma. Voilà.
Et pourquoi ils vous ont pris?
Parce qu'il y avait le concours, et puis j'ai eu le concours, quoi.
Ils vous ont pris pour votre aspect poète
C'est assez mathématique, l'IDEC, hein. Il y a trois étapes. Je crois que ça n'a pas tellement changé, d'ailleurs, le concours de la FEMIS. Donc d'abord, on doit faire un dossier à l'époque, un dossier de 30 pages. Écrire un dossier de 30 pages...
Essayez toujours.
Oui, voilà, destiné à donner lieu à un film, avec un petit synopsis derrière, et puis il y a un écrit, voilà. Puis après, bon, je sais pas, 700 ou 800, ils en prennent quelques-uns, donc il y a un oral, et ensuite les 70 derniers, et puis ils en sortaient 18. Donc c'était la guerre, c'était curieux, quoi. Et donc j'ai découvert à l'école qu'il fallait une boîte de pellicule et une caméra pour faire un film. Ça, c'est très important, parce que l'éternel piège du cinéma, c'est il faut de l'argent. Maintenant, tu n'auras pas l'argent. Et en fait, c'est faux. On peut faire des films avec... c'est difficile. Parce qu'il faut viser juste et frapper fort, mais avec très peu de sous, quoi. Et justement, à chaque film, le problème, c'est toujours de ne pas ne pas perdre la tête, de ne pas dématérialiser son projet dans sa propre tête. Et donc, justement, sur les chaînes, par exemple, le deuxième film, il s'agissait... une petite somme. On a essayé de voir, mais on avait quand même un peu d'argent entre le CNC, la possibilité du CNC, un peu du Portugal, un peu de ceci, un peu de cela, avec mon ami Stéphane Violet. Et on a essayé d'affecter, un guichet, une somme d'argent là, qui était acquise, à un poste, par exemple. Et on s'apercevait que, par exemple, pour faire le laboratoire, il fallait, je ne saurais pas dire à l'époque comment c'était, mais il fallait autour de 100 000 euros, à peu près. Alors, donc, ça rationalisait. Ensuite, bon, pour le tournage, les salaires, c'était tant, etc. On pouvait avoir la caméra dans telles conditions, le matériel. Et comme ça, mettre une réalité opérative, disons, sur des chiffres, sur des sommes d'argent, alors que sinon on est perdu. Parce que c'est vrai qu'en France, maintenant, on va vous dire, à moins de 3,5 millions d'euros, tu ne fais plus un film. Et même il y a des courts-métrages qui coûtent, je ne sais pas, ça a été dur, on avait que 120 000 euros.
Donc à l'IDEC, vous avez appris à faire des films avec pas grand-chose ?
Oui, parce qu'en fait, ce qui était surtout intéressant à l'IDEC, c'était qu'on tournait. C'est-à-dire que donc on tourne un film track, trois mois après la rentrée, moi j'ai fait un film tract. Puis ensuite,
avec un T à la fin.
Oui, voilà. Donc, il était tourné en une journée, c'était pour réduire le trac de la caméra, donc s'accaparer, s'approprier l'appareil cinématographique, quoi. Ensuite, il y avait le film de première année qui était tourné en 2-3 jours. Bon, donc, j'ai tourné Zola Incunata, puis ensuite, j'ai tourné des bouts de Morituri en rajoutant juste de la pellicule, mais sans dépasser le temps. Donc, le film a été fait exactement 3 semaines de tournage. Voilà.
Et vous avez fait un long métrage ?
Eh oui, c'est l'affaire Division Morituri, qui était bien sûr d'abord en copie double bande. C'est-à-dire, je l'ai présenté à Rotterdam en double bande. J'avais la colleuse avec moi, au cas où ça, la pellicule se déchire. Et voilà. Et ensuite, le film est allé à Cannes et on a eu une petite avance sur cette après-réalisation. 200 000 francs.
30 000 euros.
Voilà. Comme ça. Oui, exactement. Et donc, le film a été gonflé. Il a pu sortir en salle. Et il est sorti en 85. Mais ça a été toute une histoire entre la fin du montage, donc mai 84. Voilà. Mais je me rappelle, mais c'est fou, parce que les films, que j'entends des extraits, mais même là, quand on faisait la restauration de Dr Chance, je vois le film, mais j'entends déjà le son de la séance. Et j'ai une espèce de mémoire photographique.
Le son vient avant l'image ?
Ah oui, je sais déjà le son qui va arriver, donc je ne sais pas comment dire, mais comme les films ont été quand même violents à faire, je ne sais pas, c'est dans la fibre de mes neurones, je ne sais pas, c'est... Alors là, je me rappelle exactement Elno, tout à l'heure. Elno, le chanteur qui était d'abord l'actionniste, on pourrait dire, dans Lucrat Milk, et qui a ensuite été le chanteur des Négresses Vertes et qui joue dans l'affaire Division Morituri.
Des Gladiateurs.
Voilà, voilà, puisque ça, c'est un peu, je disais, c'est un péplum futuriste du quart monde.
On va parler un peu de poésie. Vous allez nous lire une poésie tirée de votre recueil de poèmes Venezia Centrale. On vous laisse... choisir ce qui vous inspire.
Je prends au hasard, hein, donc ça sera Pluie de neige. Page 105. Oui, alors donc là, ce livre-là, Venezia, c'est un livre qui compile, disons, une dizaine de textes assez longs, quoi, de 10 à 20 pages chacun, de 82 sur une vingtaine d'années à peu près, je crois. Voilà, et donc... Voilà, ça c'est un texte qui a été publié en 2001, qui s'appelle « Pluie de neige ». Le froid revitalise l'air du cerveau. Il pleut de la neige. Passage de vent dans les brumes. et la pluie sur les paupières. Soif de brisée sauvage. Le cours des eaux du ciel venu faire lever les bords, fouler le seuil et bander le sang dans la neige première, conduire le feu par les glaces. Les nuits donnent congélation. Je bois l'alcool si clair que l'ange s'arme et déchire l'ordre et le désordre. Les temps sont prêts. L'astre lunaire atomise les directions. Je recommence par les montagnes. Tout en bas, les cieux tombés au lac. Un cheminement de forêt l'éclaircit. 2. Une tension électrique au-dessus de la nuit. Bruine d'eau poudreuse danse dans l'auréole blanche des projecteurs. Le froid dans la bouche et ces bruits de clés près de l'œil. Un écho de bête de l'autre côté des chaînes. L'ange étendu sur les bords du lac. Nuit tout au seuil d'un pépiment de sorcière. Calme éblouissant d'hydrométrie qui explose à 300 mètres de profondeur. L'œil du gouffre, de la neige sur les feuilles mortes d'hier, déchues, très jeunes, à peine l'hiver taillé dans son bloc de terre sombre. En bas, l'humidité fuligineuse où sonnent les minerais, froid de ligne, nuit. 3. Dans la discontinuité de phrases, tout autour de tables nappées de clair, tandis que je voudrais coudre les fractions de mots référents à un monde que je ne veux plus, qui me cisaille et déchire la vision dehors, sous le ciel irradié de gris multipliant et d'éclaircies, presque aveuglantes. Soudain, la vallée se bouche immensément. La brume ouvre un passage dans les montagnes et le très loin. Les forêts, le lac supérieur, les ruines et la trouée volcanique se réunissent dans une blancheur vague démesurée, par la diffusion volatile, magnétique, indistincte, dévorante, opaque, et si persistante que je vois dans mes yeux et n'entends plus un son. Il neige. Il neige suivant un dessin de plus en plus serré, la chute immobilisant les vifs atomes de l'observation. La conscience vient à dissoudre la surface hypnotique de l'averse. Toutes les phrases s'absolvent dans le simple souffle de l'attente. Le monde rendu, l'ange passe, il faut boire, l'eau pâle. Attendre, etc.
Magnifique. Vous avez une voix qui vraiment
transcende vos propres mots.
Ah bon? Ouais. Merci.
Qui nous fait voyager. Comment avez-vous découvert la poésie?
Ben, comme tout le monde.
À l'école?
À 13 ou 14 ans. Oui, ben, y avait l'école, mais... Puis en même temps, ça s'arrêtait presque à Baudelaire, Rimbaud, et puis Céline, et puis... Non, surtout, je crois, il y a Artaud. Alors, j'ai découvert Artaud.
Antonin Artaud.
Oui, Antonin Artaud, j'avais, je sais pas, 15 ans. Et là, ça a été la découverte de monde. Et puis, disons, qui me semblait inaccessible. Enfin, inimaginé, disons. Inaperçu et imprescriptible. Voilà, sur les états organiques. Et donc, la poésie, ça se fait en la faisant.
Donc, vous avez commencé à en écrire.
Voilà. Oui, puis j'ai essayé de... Assez jeune, j'ai essayé de me mettre à écrire des récits ou du théâtre, puis ça, parce que j'étais assez fasciné par le théâtre quand j'étais tout jeune. Et puis, je sais pas, ça aboutissait pas. Donc, même les lettres, ça donnait plutôt vers la poésie. Là. Et puis, je sais plus, alors, il y a une infinité de... Que ce soit Trakl, que ce soit Artaud, que ce soit Céline ou Burroughs. Il y a une infinité de poètes intéressants. Tout ça s'est déployé. Et ça m'a semblé toujours recours à la liberté. Il faut pas de temps pour écrire, il faut pas beaucoup de temps pour écrire la poésie. On peut l'écrire n'importe comment. Et puis c'est, je sais pas si c'est ce qui reste, mais oui, c'est ce qui. C'est que je reviens toujours à la poésie, mais je suis pas tellement.
Les auteurs contemporains aussi, ou.
Oui, bien sûr, mais pas tellement. Je suis pas tellement un lecteur de pas tant que ça de romans. Je lis pas beaucoup de romans. C'est plutôt des essais. Là, justement, là, je reçois la livre de Boyce, par exemple. Mais c'est plutôt entre essais. Poèmes, histoire aussi, j'aime. Par exemple, j'adore un livre que j'ai découvert il y a 3-4 ans qui s'appelle Le Middle Ground. J'ai découvert comme ça, j'écoutais la radio un dimanche de pluie, en attendant d'aller au cinéma dans la voiture. Et donc, il y avait une émission sur France Culture. Et c'est l'époque avant l'histoire officielle américaine, disons, du 16-17e jusqu'au 19e siècle, quoi, qui est passionnante, qui est finalement une communauté indienne, des communautés indiennes, donc pas si nombreuses, et une communauté romaine pas si nombreuse, donc en Amérique du Nord Et finalement, c'est la façon dont les Européens s'analysent et les Indiens s'européanisent. Le livre absolument passionnant, c'est un type qui s'appelle Richard White.
Le titre ?
Ça s'appelle Le Middle Ground.
Le Middle Ground.
Et c'est chez Anacarsis, un éditeur de Toulouse, justement. Et l'auteur explique qu'il avait envie de traiter cette époque. Et au lieu d'écrire un livre de 120 pages, c'est un livre de 900 pages. Tellement il a été pris, c'est vrai, on plonge comme ça dans un abîme de mémoire, de sous-mémoire.
Dans votre Mercure insolent, sur la première page, vous posez la question « À quoi bon des cinéastes en un temps de manque ?» J'aimerais vous poser la question « À quoi bon des poètes en un temps de manque ?»
Ben oui, parce que j'ai repris la phrase d'Hölderlin, quoi. « Wozu dichter in dürftiger Zeit », je crois, c'est quelque chose comme ça, qui m'avait marqué, puisque à l'époque, Jean-Christophe Bailly m'avait invité comme ça dans une anthologie construite, puisqu'il fallait répondre à la question. C'est Beckett qui avait dit « Je n'en ai pas la moindre idée ». C'était génial. Et donc, il y avait toutes sortes de réponses à différents niveaux. Et c'est vrai que le dernier était un poète immense, bien que j'étais plus axé sur Novalis dans ma jeunesse, quoi. C'était un grand événement, puisque Novalis a mis plus de 150 ans à être publié. Et ces deux tomes d'œuvres complètes étaient un puissant fond, quoi, pour nous. Et voilà, et donc Bailly, qui était un petit peu, on le définissait comme l'ambassadeur du romantisme allemand en France, avait fait cette anthologie en prenant cette phrase. Et c'était intéressant, un moment d'effacement possible du cinéma, finalement. D'ailleurs, on ne sait pas si ce n'est pas fini, déjà, le cinéma. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir, comme c'est une invasion d'images et de variétés audiovisuelles, on pourrait dire. Et peut-être en 30 ans, on s'aperçoit que le cinéma s'est arrêté en 74, par exemple, j'en sais rien. Des dates,
C'est une des grandes questions qui traverse votre Mercure insolent.
Oui, parce qu'en fait, le cinéma a failli disparaître quasiment. Le cinéma a commencé à disparaître en 29 avec la crise économique et le passage au cinéma parlant, voilà. Et après, tous les 15 ans, il manquait de s'arrêter dans tous les pays. Il manque de ressources, sauf Hollywood, disons. Et même dans les années 30, il y a des essais comme ça, français. Dans la revue des Deux Mondes, par exemple, je retrouvais des trucs dans un grenier, où des intellectuels s'interrogent de savoir si quelle voie on peut trouver entre le cinéma, disons, de l'Union soviétique, qui est totalement public, et le cinéma d'Hollywood, comment trouver une voie étroite qui permette au cinéma français de se survivre. Et justement, il me semblait que, quand j'ai découvert, je ne sais pas des films, je cite ces deux films, parce que je les ai vus pratiquement en même temps, que ce soit Apocalypse Now et puis Eraserhead, il me semblait que là, il y avait le son. Et je me disais, on va pouvoir faire même des films muets. Donc on attaque le troisième acte du cinéma. J'ai d'abord eu le cinéma muet, mais qui est excessivement riche, où il y a 120 000 âges, puisque dès 22, la forme du film est déterminée, quoi, enfin, et est inventée. Du film, du montage, du cadre, tel qu'il est pratiqué jusqu'à aujourd'hui, dès 22, le joueur, et jusqu'à... puis maintenant, voilà. Et puis cette idée que... dans les années 20, bon, les pellicules étaient extrêmement peu sensibles. Les appareils de machinerie étaient très, très compliqués, les caméras étaient très lourdes. Et en fait, plus on a simplifié le cinéma, plus il est devenu médiocre. Donc c'est amusant de voir ça, parce qu'enfin, disons qu'on faisait à peu près dans les années 80 le cinéma de la même manière que dans les années 20, quoi. Sauf qu'on a des pellicules plus sensibles, des caméras plus légères, etc. Et donc, la pêche, je dis, ah ouais, il faut y aller maintenant, parce que ça y est, on attaque le troisième âge, qui sera peut-être le dernier, le troisième âge, du temps dialectique du cinéma, thèse, antithèse, synthèse.
Voilà. Cinéma est mort, vive le cinéma.
Oui, bien sûr, mais je crois que c'est toujours ça. Mais il ne faut pas crier trop vite et trop fort que le cinéma est mort, parce qu'il se vend. Et on ne peut plus en faire. Non, je pense qu'il peut se réinventer tout le temps, jusqu'à un moment donné, jusqu'au moment où les gens ne voudront plus en faire, quoi. Ils feront quelque chose qui ne ressort plus du tout... Enfin, c'est comme la poésie. Enfin, oui, mais finalement, je dis toujours que c'est le cinéma et la poésie, c'est un peu pareil, tout en étant l'exact contraire. Mais c'est vrai que la poésie, ça ne veut pas dire. C'est difficile de définir ce qu'est la poésie, suivant qu'on parle de l'Antiquité, du XVIe siècle, du XVIIIe, ou d'aujourd'hui.
Justement, pour continuer sur la poésie, on va continuer sur vos activités de poète en tant que chanteur.
Oui.
On va commencer par écouter un extrait.
And now, This is Dada Rock'n'Roll Guerrilla.
C'est un morceau qui nous a beaucoup marqué, qui s'intitule European Death Winner, de votre groupe, le groupe MKB, que vous l'avez écrit et chanté en 1980. On va un peu s'attarder sur cette dernière phrase qu'on a pu écouter. Nous sommes les Messageros Killers Boys, messagers qui tuent, no message. Le message, c'est le médium. Messager qui tue, no message. Lorsque la parole est menacée, elle devient meurtrière, mangeuse de sacrifices. Le message, c'est le médium et ce sont les messagers qui tuent. Est-ce que c'est une référence aux formes de terrorisme qui pouvaient exister et peut-être tenter une partie de la jeunesse no future, radicale, d'extrême gauche de l'époque ?
Alors là, c'est le premier 45 tours. Donc on a enregistré ça, je crois, en novembre 80, avant même le premier concert de MKB qui a eu lieu le 13 décembre 80. Donc c'est tout donc en deux jours, on a enregistré ces trois titres, les trois titres du premier 45 tours, quoi. Et alors c'était intense, quoi. Puis c'est notre premier enregistrement en studio, et puis on a été très vite, comme ça, en 8 pistes à Bordeaux, voilà. Et les phrases que vous citez, en fait, c'était repris toujours un peu comme inter, c'était un petit peu les paroles génériques de MKB, quoi. Messagero, killer boy. Mais c'est pas forcément sociopolitique, en fait, c'est à prendre plutôt au sens, non pas chamanique non plus, mais espèce de oui, le cannibalisme. Oui, il faut laisser son mystère aux choses. Chacun, il voit ce qu'il veut. Mais je m'identifiais bien à cette phrase, oui. Mais qui finalement résume, à mon avis,
un contexte politique aussi de la jeunesse à cette époque.
Ah oui, 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 enfin, c'était... oui, c'est plutôt existentiel, parce que c'était... enfin, oui, tout est politique, on peut dire, comme tout est sexuel, tout est politique. Oui, oui, dire qu'en France, ça peut être la même dimension, mais c'est vrai qu'en Angleterre, c'est une espèce de révolution sociale, quoi, le mouvement punk. C'est vrai que tout est en feu, disons, prend feu en 76. Quoi.
Parce que dans les mouvements punk qui ont émergé en France, surtout, même parmi beaucoup de groupes, la musique punk était très joyeuse, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont fait de la musique très clownesque. Surtout,
Oui, mais c'est beau, bien après, quoi, parce qu'en fait, ce que je veux dire, le punk, ça démarre en 75-76, quoi. Donc après, je veux dire, ça s'appelait plus le punk. D'ailleurs, les copains, on les appelait. C'est déjà très révisionniste, hein, parce que le punk meurt en 78, quoi, avec la fin des Sex Pistols.
Donc ça a duré deux ou trois ans.
Oui. Quelque part, c'est fini après. Puis il y a la drogue qui arrive partout, c'est autre chose. Et c'est comme ça, quelque chose qui se survit tout le temps. Puis après, on est vraiment dans le post-punk, on pourrait dire déjà. Hein. Tous les grands groupes arrivent, que ce soit Suzy and the Benchies, ou que ce soit Peel en Angleterre. Et après, il y a comme ça toujours un retour à une énergie primale, quoi. Et moi, j'étais pas très... Donc, KB, c'est un truc bizarre, parce qu'il y a des machines. Enfin, il sait synthé, guitare, hein, et batterie, mais sans basse, au départ, là, sur ce morceau que vous avez entendu. Mais déjà, mais ce morceau, c'est quand même finalement le morceau vraiment de remembrance punk, quoi. Et en fait, c'est quand j'ai connu Lucrat à Paris, qui avait vraiment une énergie, qui était vraiment des punks, enfin, je veux dire. Mais qui n'était pas des copunks, je sais pas comment dire. Et comme ça, il y a eu une espèce d'amitié instinctive qui est née. Eux, ils adoraient notre premier album, là, qui était un court album, qui s'appelait Terminal Toxic, qui sortait en 82. Et on s'est croisés, je crois, au premier concert de Birth Day Party à Paris avec Marsu. Et puis ensuite, on a joué ensemble. Et ça a été la deuxième période de MKB. Puis il y en a deux qui sont revenus à Toulouse. Le batteur Lucrat Mill, qui était commun aux deux groupes à cette époque-là, sur le deuxième disque qui s'appelle Morituri. Et donc, les Lucrat Mill qui ont joué dans l'affaire d'édition Morituri.
Qui a un film aussi qui parle de terrorisme.
Ah oui, là, directement, oui, bien sûr. Oui, qui a un projet, disons, qui est remonté à entre 77, puis toute cette période qui était hantée, quoi, en fait. Outre le côté un peu cinéphile, ou je ne sais pas comment. Paris était un passage assez important à l'époque, disons, pour la musique. Mais à la fois, les Français ont décroché juste après cette première vague, on pourrait dire, qui a été assez intéressante au niveau des groupes français. Il y a eu des trucs comme Metal Urbain, Electric Callas, etc. Et puis, je ne sais pas, ça... Mais disons qu'on était entre... Il y avait le punk à Londres, vraiment, et puis il y avait la fraction Armée Rouge en Allemagne, quoi. Et nous, on était au milieu, on a essayé d'inventer une autre voie, enfin... Et c'est aussi pour ça que j'ai eu le désir de faire des films, quoi. Parce que disons qu'à l'époque, bon, la musique pouvait être la voie royale pour les Anglais, ou la mode, et par contre, en France, on pouvait être peintre ou cinéaste, encore. Maintenant, c'est autre chose, je crois.
À propos de votre parcours musical, c'est aux côtés de MKB que vous avez fait le plus entendre votre voix. Vous avez en effet été chanteur, hurleur, peut-être ménestrel ou lanceur d'alerte. Vous avez créé la formation MKB à Toulouse en 1980, avant de partir pour la capitale. Comment êtes-vous rentré dans l'univers de la musique ?
Oh, c'est comme rentrer dans la poésie. Hein. Disons qu'en fait, oui, il y avait trois groupes bon, qui me passionnaient dans ma jeunesse, moins de 20 ans. C'était Le Velvet, Roxy Music et Stooges. Et puis d'un seul coup, c'est vrai que là, tous ces les Pistols, les Dames, tout ça est arrivé... Disons que la poésie était quand même élitiste au sens où il fallait quand même plaire pour être publié, il fallait demander l'autorisation. Alors de seul coup, quand même, le punk était l'insurrection, le surgissement. Et c'est un voyage des classes sociales, parce que c'est vrai que les punks étaient une extrême minorité quand même au début, mais il y avait des gens de tout bord, des gens cultivés ou des gens comme Elno, par exemple, qui était un type vraiment génial, mais qui était vraiment... un prolétaire, mais avec une espèce de poésie qui s'intéressait à tout, qui était très doué. Voilà, c'était drôle. Il pouvait y avoir le punk de Toulouse, sur les neuf qu'il y avait, qui était le fils de prof de fac, ou l'aristocrate décadent, ruiné. Je ne sais pas comment dire.
Il y avait un vrai brassage social.
Oui. Oui, mais même par exemple, il y a une espèce d'élection à l'envers, quoi. les gens rentraient là-dedans et... existentiellement, c'était vraiment fort, quoi. Le fait d'être l'ennemi de tous, je sais pas, fraternité, je sais pas comment dire, de solidarité. Et c'est vrai qu'existentiellement, ça a été des années fondatrices, quoi. Libre, dangereuse, excitante.
Dangereuse.
Bah oui, le rock and roll, c'est quand même dangereux. Mais maintenant que c'est plus tellement dangereux, peut-être. Bah si, parce qu'il y a c'est l'excès, c'est à l'époque, il y avait quand même toujours la brutalité ou la violence qui arrivait vite. Les drogues, les nuits blanches, l'alcool, la désocialisation. C'est la poésie, quoi.
Belle définition de la poésie.
Justement, Avant MKB, vous avez fait partie d'un autre groupe, DDP, de la Destruction Pure, qui était un groupe uniquement live, si je ne me trompe pas.
Oui, oui.
C'est-à-dire qui vous enregistrait pas niveau concert ni niveau disque. Pourquoi est-ce que vous faisiez ce choix radical de pas enregistrer ?
Mais c'était quand même l'option de pas mal de groupes anglais même, puisqu'en fait, Suzy and the Banshees, ils ont vraiment enregistré qu'en février 78. Mais c'est vrai que le punk était quand même un truc brutal, où la musique était, était presque un prétexte. D'ailleurs, moi, je l'ai pris comme ça, d'ailleurs. Et je pensais que c'était comme on était nostalgique, quand ça se voit dans les pochettes de disques. C'est vrai, il y a une nostalgie de Dada, de la tabula rasa, la table rase, quoi. Et l'action, quoi. L'actionnisme, enfin, ou même, comme disait, comme a dit Marinetti, la poésie est aussi un acte. Voilà, le fait que la poésie puisse
être une performance éphémère.
Oui, mais un acte, c'est un acte. Donc le punk, c'était ça. Et c'était propager l'agitation d'abord. Alors, la musique le permettait. Mais en fait, on a appris à faire de la musique en commençant à jouer. Quoi. Mais presque. Et bon, d'autres, bien sûr, savaient déjà jouer parce que les pistoles savaient bien jouer. Quoi. Enfin, nous, de notre côté, moi, j'aurais jamais pensé non plus être chanteur de rock and roll. Et c'est devenu comme ça. Et l'idée qu'il puisse y avoir des peintres punk, du cinéma punk,
C'était vous qui écriviez les textes pour tous les groupes dans lesquels vous avez.
Oui, oui, j'ai toujours écrit les textes. Comme j'ai écrit les scénarios, je dis pas que je savais faire, mais je pouvais le faire. Et puis, et personne ne l'aurait fait, donc je le faisais.
Est-ce que pour vous, c'est fondamentalement différent d'écrire une chanson et un poème ?
Ça dépend. Non, je sais pas, ça peut être des notes, chansons de rock, comme la poésie, non, c'est pas vraiment différent. À la fois, si, parce qu'après, dans la facture, il faut quand même le. Enfin, je sais pas, parce que nous, c'est pas vraiment plus des chansons. C'est pas des chansons académiques, disons, MKB. Mais c'est vrai qu'après, il y a des textes où il y a juste des bruits, et puis c'est un texte. Et puis. Alors que. Faussement, disons, dans le morceau qu'on vient d'écouter, il y a un faux refrain, un faux couplet. Et c'est vrai, quoi. Mais il y a des textes qui ne passent pas le seuil du mur du son, quoi. Je pense que les textes d'MKB sont parmi mes textes, pas les plus mauvais textes que j'ai écrits, quoi. Parce qu'il fallait que je puisse, finalement, les incarner, puis qu'il y ait cette espèce d'anonymie sacrificielle, je ne sais pas quoi, qui était le MKB, fraction provisoire. Il ne fallait pas que ça soit comme ça, quelque chose de privé, quoi.
On va écouter un autre extrait tiré de la bande-son du Trésor des îles Chiennes, également joué par MKB. Le titre s'appelle « Soleil trahi ».
Soleil trahi, je ne sais que dire. Un plissement d'ailes me chiffonne l'intérieur. Certains diront que c'est le souvenir des fers. D'autres que la nuit, surtout quand la lune est pleine, c'est dégueulasse et plein de sorcières. Quoi qu'il en soit, j'angoisse toujours quand la nuit tombe. Mais très vite, la nuit m'excite. Elle m'emporte vers la ronde des filles et de l'alcool. Alors, je commence à devenir fou. J'adore. Ravi d'être soustrait aux ramures tentaculaires du sommeil. J'ai toujours eu peur de dormir. Pas que je sois insomniaque, non. Impossible de se coucher. Je déteste la nuit et pourtant j'y tourne. Un plissement d'ailes me chiffonne l'intérieur. Je ne combine rien, j'ai des ambitions. L'âme est vague, pas de quoi en tirer gloire. Grande passion déçue, vécu des rails, on imagine le reste. À peine une texture surgit de la chair qui vous attire vers en bas sans qu'on puisse descendre. C'est con de viser le ciel sans rien voir, cause qu'on est trop roide pour descendre. De la tête fut toujours roide. Tendre l'âme est cassée dans le corps. Le nord, le jour, le soleil, le soir, il est trahi. Il est tard, je n'irai pas dormir, il n'y a rien à faire, jazz dans les îles, un peu de neige sous les paupières, le ciel est noir sans cristaux, la terre est morte sans promesses, nous sommes tristes, la lune ne compte plus.
Vous avez composé une grande partie des musiques de vos films, vous-même avec votre groupe. Quand vous composez pour vos films, est-ce que cela change votre manière de travailler ?
Non, mais c'est-à-dire que c'était MKB qui continue, puisqu'en fait, on a commencé avec Jack Belsen, MKB, et puis à un moment donné, on a toujours, il y a un peu Jack Belsen, sauf la période Morituri. Et donc, on a, disons, vraiment fait les choses ensemble. Et en reproduisant finalement un peu le même schéma, c'est-à-dire que j'étais le chanteur, j'étais le guitariste, c'est devenu un peu la même chose dans le cinéma, quoi, où le son était important. Et comme on n'avait pas les moyens d'acheter les musiques ou de payer, on s'est jeté dans le vide pour le trésor des îles Chiennes. Et là, c'est Jack qui est disparu le 7 décembre dernier. Mais donc, c'est une amitié qui a duré longtemps, quoi, de 79 à 2018, quoi, 1980. Oui, et puis la vie comme ça, il y a beaucoup de temps mort. Le cinéma, c'est pareil, jamais j'étais vraiment professionnel, j'ai fait des films, mais jamais j'ai été vraiment produit, j'ai jamais eu vraiment de producteur, comme j'ai jamais eu vraiment eu d'éditeur fidèle. Et je ne sais plus qui dit ça, c'est qu'on est toujours au bord de l'effacement, quoi. De même que Sterling Hayden qui disait cette phrase magnifique, professional irregular, irrégulier professionnel, que je citais au début de l'entretien. Et c'est vrai qu'on... On passe son temps à tout perdre, à retrouver, quoi. Enfin, moi, j'ai perdu la poésie, je l'ai retrouvée. Perdu la musique, je l'ai retrouvée. Jusque-là. Mais il faut toujours réinventer. J'ai jamais eu, disons, une voix professionnelle, quoi. Les films, c'est pareil. Donc, tout c'est comme ça. On est toujours face à un mur. Et comment on démarre l'escalade? Voilà. Alors, donc, ce morceau, c'était ça. C'était un texte que j'avais écrit quand j'étais complètement perdu. Et on m'a demandé un texte, et j'ai écrit ce texte. C'est à l'occasion d'un voyage, je ne sais plus. Et je l'ai repris, je l'ai adapté en compressant pour MKB. Voilà. Puis j'ai dit, oui, il faudrait un texte, on fait un texte, il faudrait qu'il y ait une voix chantée. Là. Enfin, ce n'est pas très chanté. Et on a fait ce morceau dans un studio de répétition. À la fin de l'enregistrement de la bande-son, le studio d'enregistrement de DMI, voilà. Et le casque était pété, j'entendais pas bien. Et c'était avec Goran Vejvoda, on était que trois. Voilà. Et c'était, si, à la base, c'était bien sûr, c'était Olivier Prontorichonski. Donc il y a un texte qui s'appelle Prontorichonski, qui était le bassiste d'MKB sur le troisième, le quatrième disque, qui sont, c'est la période 87-90, on va dire, puisqu'il est mort en 91, et qui s'est suicidé en 91, voilà. Et à la batterie, c'est Klaus, ici, deuxième batteur, qui lui aussi s'est suicidé dans ces années-là, années 90.
Nous approchons de la fin de cet entretien. Vous parliez de murs face auxquels vous pouvez être entre plusieurs projets. Quels sont, justement, vos nouveaux chantiers visuels, poétiques, de musique, en cours ou futurs?
Disons que j'ai un livre, oui, qui s'appelle Corniliste, qui est de la poésie. Et puis là, je suis sur un nouveau scénario, là, j'ai écrit un gros...
Nouveau film. Un
gros traitement, oui, projet. Et puis...
De quoi ça va parler?
Ah, c'est un secret.
Vous avez déjà le titre.
Militaire. Oui, ça s'appellera justement Soleil trahi.
Soleil trahi.
Ouais.
Dans Mercure insolent, page 18, vous dites le cinéma comme métaphore militaire.
Eh oui, voilà. Mais je ne sais pas si j'arriverai à construire ce film-là. C'est un peu une gageure. Quoi. C'est quand même un film de guerre que j'envisage. Et j'ai jamais fait ça. Ni de film historique, ni film de guerre. Et j'aime bien comme ça utiliser, mais c'est presque comme un code de conduite pour l'écriture, quoi. Là, je vais faire un film noir, là, je fais un film science-fiction, là, je fais un film gothique, même si
les genres du cinéma.
Oui, mais de façon libre.
Ah oui.
Mais quand même avec l'idée quand même de le faire à ma manière, mais ça me... Alors, je l'ai déjà dit souvent, mais c'est vrai que les genres... c'est vrai qu'il y a un renouveau du genre, mais pas au sens où j'entends, je crois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le genre 70, machin. Moi, j'aime bien bouleverser les codes, mais en gardant comme ça... comment dire, ouais, mélanger Dreyer, James Bond, dans un film de science-fiction.
Et pour les films de guerre, ce serait qui? Pour le film de guerre que vous allez faire?
Ah ben, les films de guerre, il y avait plein de films admirables, fabuleux. Mais c'est vrai que ce que je disais, c'est que oui, comme en poésie, finalement, le genre, même si on fait de la poésie en mutation, mais c'est vrai l'idée de que ça soit, même en vers libre, une élégie ou une ode ou une série de sonnets, ben c'est pas pareil du tout. Ça change la forme de la poésie, quoi. Même si le fond est le même, quoi, au départ. Et le cinéma, c'est un peu pareil, il me semble.
Et une dernière question, quel conseil ou petit mot adresser à un ou une jeune qui voudrait faire du cinéma aujourd'hui ?
Faire ce qu'on veut au départ. Et puis utiliser la jeunesse dans la mesure où, avec le plus d'intensité, parce que c'est le moment où on enregistre presque instantanément, où on apprend vite. Provoquer toutes les expériences.
Très bien, on va rester sur ce mot-là, provoquer des expériences. Et une fois n'est pas coutume, nous allons conclure l'émission en écoutant une musique que vous nous avez apportée, FJO 100, et dont je crois vous allez nous dire quelques mots.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est la musique de fin, de toute fin, du générique de toute fin, puisqu'il y a un faux générique un peu, de Neuf Doigts, mais qui est un live sorti en 96 qui s'appelle Loi des fantômes.
L'ennemi est partout, couchons-nous. L'ennui est au trou, couchons-nous. Tout ça finira sur un air de rock'n'roll. Ou sur un baiser à the big kiss smack. 1, 2, 3, 4. La chance et le malheur pour nos amis d'être des morts. Dans la couleur internationale, bleu, blanche, mort, emplit la mort et la poudre. Comme disent les Français, all my fucking friends are fucking dead. Elle le temps passe, vite, trop vite, une arpince dont on approche, on dirait que les choses. De bête traquée, que je voudrais crier sans que l'inconnu n'entende. Car il n'y a plus ni secours ni pitié, c'est la loi des fantômes. Comme disent les Français, all my fucking friends are fucking dead. Les serpents sous la lampe. L'œil rempli d'ordures, revenu de tes outrages, des paresses dans le cœur, et l'âme trempée de fleurs de lèvres. Chaque soir je m'égorge, enfin chaque soir, c'est la loi des fantômes. Comme disent les Français. Traverse la nuit, ressuscite à l'aube. La mémoire vide et la cervelle pleine de reptiles. Hébété dans la plus longue gorge d'alcool. Hébété dans le jeu de sa moiteur des dépourris. Mes amis sont des morts. Je traverse la nuit, ressuscite à l'aube. La mémoire vide et la cervelle pleine de reptiles. Notre banque s'est fendue. Recommencez la pointe, face ou néfaste, au diable et à Dieu, au diable.